tour, Muriel Meira.
Bonjour à vous et bienvenue. Le Cambodge et les secrets du lotus, ça sonne un peu comme le titre d'un album de Tintin, mais il se trouve que c'est le titre du reportage d'Éléonore Sock. En effet, aujourd'hui dans Des Tours, nous allons découvrir que cette plante, le lotus, tient une place très importante dans la vie des Cambodgiens, n'est-ce pas Éléonore ?
Le lotus, c'est la plante de cœur des Cambodgiens. D'abord parce que c'est une des plantes les plus répandues avec le jasmin. Et puis, ce qu'on apprécie ici, c'est qu'on peut consommer chaque partie de la plante. Ensuite, il faut savoir que le lotus est un symbole important dans le bouddhisme. Donc les Cambodgiens ont une image très positive et poétique du lotus. On retrouve par exemple la fleur dans la poésie ou dans les chansons, souvent des chansons d'amour.
Et dans votre reportage, Éléonore, on va aussi découvrir que les fibres de lotus servent à fabriquer des vêtements haut de gamme. Alors on n'en dira pas plus pour le moment. Par contre, ce qu'on peut dire, c'est que certains habits religieux sont fabriqués en fibres de lotus.
Alors ça se passe du côté de la Birmanie, dans la région du lac Inle. Il y aurait là-bas une tradition millénaire de tissage du lotus destinée à la fabrication d'une robe pour le moine le plus important pendant une fête bouddhiste annuelle. En tout cas, c'est la légende qu'on raconte. Et a priori, au Cambodge, comme on va le dévoiler plus tard, le tissage du lotus est assez récent.
Et toujours dans l'ordre du sacré et du religieux, les fleurs de lotus ont leur rôle à jouer dans certaines cérémonies religieuses.
Oui, les bouddhistes qui représentent au Cambodge 95% de la population ont coutume de faire des offrandes de lotus quand ils vont à la pagode. Le lotus, c'est un symbole de pureté et d'impermanence des choses pour les bouddhistes. C'est la seule plante qui pousse dans la boue et qui est capable de grimper au-delà du niveau des eaux. Donc, elle symbolise aussi l'idée que chacun peut sortir de sa condition et s'élever spirituellement.
Et autre preuve de l'importance symbolique du lotus, on en trouve des représentations dans le temple d'Angkor, un temple dans lequel vous allez nous emmener. À quoi il ressemble ce temple ?
Il faut s'imaginer que l'on est sur un parc archéologique de 400 km², donc plus grand que le canton de Genève. Il y a sur place une quarantaine de temples qui sont dispersés dans la forêt. Et Angkor Wat, donc le temple où je vous emmène, a été construit au début du XIIe siècle. Quand on arrive, on le voit surgir au milieu de grands bassins d'eau et on le reconnaît à ses 5 tours emblématiques qui figurent d'ailleurs sur le drapeau cambodgien. Angkor Wat est un temple montagne, donc construit sur une colline. Comme c'est le plus connu, c'est aussi celui qui attire le plus de touristes, donc vous allez l'entendre, c'est assez bruyant.
Alors on voit des singes ici, ils sont célèbres partout sur le site d'Angkor, mais il faut se méfier d'eux parce qu'ils ont tendance à chiper des objets. Et là on voit des gros cochons, il y a pas mal d'animaux sur ce site. On approche du Bayon, c'est un temple qui est assez connu puisque toutes les tours sont surmontées de visages, de sculptures de visages sur les quatre côtés, aux quatre points cardinaux. Et à cette heure-ci, c'est assez sublime parce qu'on est bientôt au coucher du soleil, donc la lumière arrive à l'horizontale et elle caresse la pierre qui est ocre, presque rosée, et une très belle couleur. On assiste à une cérémonie assez impressionnante où un moine arrose à gros coups de seau d'eau un fidèle qui est assis par terre en priant, un rituel de purification, ce qui prouve que le site d'Angkor reste un lieu hautement spirituel, où la religion est toujours pratiquée de manière quotidienne. Waouh, on vient d'entendre un bruit de tambour. Apparemment, c'est pour l'appel à la prière. C'est assez impressionnant. Ça vibrait, même à distance.
Je suis à Angkor Wat, dans le temple d'Angkor, et je m'apprête à retrouver Patrick Kersalé. C'est un archéomusicologue qui connaît très bien le site, parce que ça fait une vingtaine d'années qu'il l'explore.
Ici, nous nous trouvons dans le temple d'Angkor Wat. Nous sommes exactement dans le cœur d'Angkor Wat, c'est-à-dire dans le sanctuaire principal. Angkor Wat est un temple qui a été construit par un roi hindou, le roi Suryavarman II, au début du XIIe siècle, c'est-à-dire à une époque où la France construit ses cathédrales gothiques. Donc nous avons une représentation dans un angle de deux murs de 2 fois 4 femmes. Oui. Nous sommes ici devant des personnages que certains disent être des devatas, c'est-à-dire des femmes, des déesses si l'on peut dire, mais en fait personne n'est vraiment sûr de la nature de ces personnages. Ce sont toutes des femmes, ça c'est très clair, dont on voit les seins nus, qui portent des robes très joliment ouvragées, très joliment plissées. Ce que l'on peut voir sur certaines de ces femmes, on va plutôt les appeler les femmes d'Angkor, certaines tiennent dans leurs mains un bouton qui semble être un bouton de lotus fermé. Le roi Suryavarman II, qui est représenté dans la galerie sud en majesté, tient dans sa main quelque chose qui semble être un bouton de lotus avec une queue de lotus qui part derrière sa main, mais pour l'instant, personne n'a vraiment défini exactement ce que cela représentait, mais il semble que ça représente en tout cas une forme du pouvoir, un peu comme un sceptre de pouvoir. Et certaines de ces femmes d'Angkor possèdent, ont entre les mains, ce bouton de lotus qui pourrait peut-être dire que certaines d'entre elles ne sont pas des devatas, mais sont des princesses. Le roi Suryavarman II a construit ce temple d'Angkor Wat, qui est un temple très particulier puisqu'il ouvre à l'ouest, donc qui est l'orientation de la mort. Et ce temple est considéré aujourd'hui comme un temple funéraire, donc probablement que le roi a voulu mettre autour de lui pour partir dans l'au-delà, si au-delà il existe, eh bien toutes ces femmes qu'il adulait, certainement qu'il avait une cour immense. Au-dessus des colonnes, donc dans cette salle, on a sur les caissons du travée, on a d'immenses, de très grands lotus qui font à peu près 35 à 40 cm de diamètre. Donc on voit très bien le cœur du lotus, c'est-à-dire la partie qui correspond à une espèce de corolle centrale dans laquelle on trouve les graines. Et puis tout autour, on a 8 pétales donc, qui représentent le nombre 8 est un nombre sacré du bouddhisme. Donc ce sont peut-être là du coup des parties qui ont été sculptées au moment du bouddhisme. Mais là, j'en suis pas certain. On a également autour de cette galerie des bouddhas. Donc le lotus est en même temps un symbole hindou. Donc, qui représente le soleil, qui représente l'éveil, et est surtout devenu un symbole du bouddhisme, puisque le propre de la fleur de lotus est de s'élever au-dessus de l'eau. Donc c'est la seule fleur aquatique qui s'élève au-dessus de l'eau. On a effectivement la fleur de lotus, la fleur de nénuphar, mais qui, elle, repose sur l'eau, même si il lui arrive de pousser un petit peu au-dessus de l'eau parfois, puisqu'on peut l'avoir en fonction du niveau de niveau de l'eau. Mais en tout cas, le lotus, lui, émerge vraiment au-dessus de l'eau. Donc c'est une fleur qui a évidemment fasciné des générations d'êtres humains depuis le temps des Védas, enfin, en tout cas depuis les débuts de l'hindouisme jusqu'à aujourd'hui. Et le Cambodge a été hindouisé à partir du 1er siècle de notre ère. Et donc dans cette hindouisation, évidemment, les hindous de l'Inde ont apporté énormément de symboles et d'outils pour en support à la religion, dont le lotus. Et il est probable que le lotus, même les graines, soient venues de l'Inde pour être implantées en Asie du Sud-Est et particulièrement au Cambodge. Donc le symbole du bouddhisme, de cette fleur qui émerge au-dessus des eaux, eh bien c'est une manière de montrer aux êtres, par une métaphore florale, que même si on plante une graine dans la boue dans laquelle se développe le lotus, eh bien chaque être, comme le lotus, peut devenir un Bouddha. Donc la fleur qui s'ouvre bien au-dessus de l'eau est un symbole de la bouddhéité de chaque être. Ce qui est intéressant également de comprendre, c'est que la fleur et les graines arrivent en même temps et que les graines retombant dans la vase vont de nouveau germer pour donner un nouvel être floral. Et donc
c'est une image circulaire.
C'est une image circulaire, exactement, la roue de la vie, la roue du Bouddha. Et c'est pour ça que le lotus circulaire représenté avec ses pétales est confondu avec la roue de la vie. Le Bouddha est lié au lotus parce qu'on sait que le Bouddha, quand il est né, il a fait 7 pas, et là où il a posé ses pas, eh bien, il y a des lotus qui ont apparu.
Ça, c'est une belle légende.
Détour jusqu'à 16h sur la première.
Je suis enterré vivante, contente de moi. Au-dessus des eaux stagnantes, contemple-moi là. Dame de lotus, dame de lotus. We'll be right back.
Simon sur la première. Elle nous chantait « Dame de Lotus », un morceau qui nous rappelle que le lotus pousse dans la boue pour mieux sortir la tête hors de l'eau. C'est au travers du reportage d'Éléonore Soc que nous découvrons cette plante aujourd'hui. Une plante qui se cultive au même titre que le riz, mais toutefois pas à la même échelle.
Le riz, c'est le moteur de l'agriculture. Il représente un tiers du PIB au Cambodge, donc il y a un véritable marché, de gros producteurs, de grosses usines. Alors que la culture du lotus, c'est une économie beaucoup plus informelle. Je dirais que pour un paysan qui possède une rizière, c'est assez courant d'avoir à côté une petite parcelle de lotus, au même titre que des fruits et des légumes plutôt.
Et ça fait longtemps qu'il y a cette tradition de cultiver du lotus au Cambodge ?
Alors j'ai peu d'informations à ce sujet, car il n'y a plus beaucoup de littérature sur les traditions cambodgiennes. Je rappelle que sous le régime Khmer Rouge de 1975 à 1979, un quart de la population a été exterminée et énormément de documents ont été détruits. Mais ce que je peux dire, c'est que le lotus pousse assez facilement dans les zones de plaine. Il est fort probable que sa culture existe depuis longtemps.
Et il y a d'autres pays asiatiques qui cultivent du lotus ?
Oui, le lotus est cultivé un peu partout dans la région, au Vietnam, en Thaïlande, dans le sud de la Chine et jusqu'en Inde.
Et donc là, on va se rendre sur un lac où se cultive le lotus. C'est un Français qui va nous y emmener. Vous nous le présentez ?
Il s'appelle Awen de Laval, il a 38 ans et c'est un ancien ingénieur télécommunication qui a décidé de se reconvertir au Cambodge. Alors il a coutume de faire une blague en disant qu'il travaillait déjà dans le fil avant le Cambodge. Quand il est arrivé ici, il s'est d'abord lancé dans la soie sauvage, puis il a cherché de nouveaux matériaux comme le kapok, la fibre de bananier qui sont des arbres que l'on trouve au Cambodge. Et il s'est rendu compte qu'il pouvait utiliser le lotus. Il a donc pris quelques années pour développer tout le procédé qui permet d'extraire la fibre et de le tisser en fil.
Et aujourd'hui, Awen de Laval a un atelier dans lequel il fabrique des habits. Avant de se rendre dans son atelier, on va donc se rendre sur le lac.
Nous sommes arrivés à Kamping Poi, qui est une petite localité à 20 km de Battambang. Alors Battambang, c'est la grande ville du nord-ouest du pays. C'est la troisième ville du Cambodge, je crois, en habitants. Et c'est vraiment le cœur vert du pays, c'est le poumon agricole. C'est dans cette région-là qu'on produit essentiellement, on produit de tout, mais beaucoup de riz. D'ailleurs, le riz, le jasmine rice, le riz de meilleure qualité, vient de cette région. Et en face de moi, le lac. Très beau lac, où on voit de loin les lotus. On dirait un tableau, quoi, un tableau pointilliste. Il y a plein de petits points roses, rose clair. C'est plus les nymphéas de Monet, c'est les lotus. C'est vraiment beau. Alors nous sommes montés dans le bateau, petit bateau bleu en bois, et je suis avec Awen de Laval, qui s'est installé au Cambodge il y a pas mal d'années.
Oui, 13 ans exactement.
13 ans, et avec Sonia, qui travaillait ici aussi avant de rentrer en France, une Française qui revient visiter un peu la région. Oula ! Là, on avance avec un bâton parce qu'il n'y a pas beaucoup de profondeur, donc c'est pas hyper stable. Awen, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu où on est ici ?
Alors, le lac est en fait ici, on est vraiment au cœur d'un écosystème assez magique. C'est un lac qui est tout simplement géant, il fait à peu près 10 000 hectares. Donc c'est 10 km sur 10. Il est entouré de deux grandes montagnes qui sont totalement vierges et authentiques puisqu'elles ne sont pas encore totalement déminées, donc il n'y a aucune construction dans les montagnes.
Et encore, ah oui, alors c'est pas trop recommandé d'aller se balader dans les montagnes.
Non, c'est pas recommandé du tout. Certains s'y aventurent un petit peu parce que c'est plein de gibier, notamment les sangliers, du cerf et plein d'autres animaux des bois. Par contre, donc entre ces deux montagnes, on a 10 km de lac et là, on a une grande partie, on va dire à peu près 200 hectares qui sont remplis de lotus sacrés géants. Comme tu peux le voir, ils font à peu près deux fois la taille des lotus qu'on a à Siem Reap, tout simplement parce que le sol est d'une qualité unique pour faire pousser les lotus, et puis aussi la profondeur, une grande quantité d'eau, donc qui a l'avantage pour le lotus de bien pousser et puis de bien se répandre. Et puis surtout, donc le lotus, qui est une plante phytosanitaire, va nettoyer l'eau. Donc c'est pour ça qu'on a une eau qui est assez claire. On voit 50 cm, 1 mètre, ce qui est assez rare dans les lacs au Cambodge. Donc ce sol permet de bien faire pousser les lotus, et les lotus vont protéger les poissons. Donc les poissons se renouvellent en quantité, vont faire leur petit bébé sur les tiges et vont laisser leurs excréments qui vont nourrir le sol et l'eau. Donc ce qui va faire que les lotus vont être en pleine santé et vont réussir à pousser parfois jusqu'à 4 ou 5 mètres.
Oui, d'accord, parce que tu m'expliquais que ce lac, c'est un lac artificiel en fait.
Oui, tout à fait, c'est un lac qui a été construit pendant l'époque des Khmers Rouges, donc c'est des centaines de milliers de Cambodgiens à la main qui ont creusé ce lac. Pour créer en fait un réseau de canaux pour récupérer un petit peu l'eau d'un petit peu partout, et ensuite de créer un réseau d'irrigation qui va aller nourrir 140 000 hectares de lacs d'ici et battant donc jusqu'à la province de Sisopon.
C'est quoi les propriétés du lotus? Parce que là, je vois, on a des grosses feuilles de lotus donc qui flottent à la surface du lac et elles retiennent l'eau. Alors, il y a des gouttes d'eau, des grosses gouttes d'eau qui glissent sur la feuille.
C'est quelque chose qui intéresse beaucoup la science, qui est étudiée en nanotechnologie. C'est que la feuille de lotus n'est pas seulement juste imperméable, mais en plus elle est auto-nettoyante. Donc grâce à des micro-poils qui sont disposés sur toute la surface de la feuille, la goutte d'eau, quand elle va glisser comme ça le long de la feuille, eh ben, elle ne va jamais rentrer à l'intérieur de la feuille et elle va emporter avec elle la saleté. Donc c'est pour ça que les feuilles de lotus restent toujours parfaitement propres.
D'accord. Et ce lotus, il est là depuis toujours. Enfin, il a été planté ou comment ça marche la production du lotus?
Oui, en fait, le lotus est cultivé. Très concrètement, on pourrait ne pas le cultiver. Il repousserait à peu près tous les ans. Il vient repousser, mais il perd en qualité. Il va se dégénérer avec le temps. Donc, au bout ici, ce qu'on fait, c'est que généralement tous les ans, on va aller nettoyer les champs et on va replanter des bébés plants, histoire de régénérer la variété et d'avoir une fibre toujours bien souple, crème, et des fleurs de lotus bien grosses comme celle-ci.
Alors, qu'est-ce qui t'a emmené au Cambodge, Wen?
Eh ben notamment ce lac. En tout cas, c'est ce lac qui m'a donné envie de rester et développer les projets. Je suis venu au Cambodge surtout pour créer un projet qui a du sens pour moi. À l'époque, j'étais ingénieur dans une entreprise télécom à Paris. et de mon 9e étage, arrivé dans ce Cambodge authentique de il y a 15 ans, j'ai découvert déjà un pays super neutre, super authentique et avec des gens charmants, avec une grande motivation pour s'en sortir et pour reconstruire le pays après ces 30 années de guerre. Et donc j'ai eu envie de contribuer à cette reconstruction du pays en apportant une nouvelle industrie et celle du textile végétal, tout en développant une activité qui profite aux populations les plus défavorisées.
Ah oui, donc le contraste entre il y a 15 ans du 9e étage et aujourd'hui dans le lac, c'est impressionnant quand même.
Voilà, c'est exactement ce qu'on est venu chercher. Et puis maintenant, on ne me ramènera plus au 9e étage, dans la tour face à la Seine.
Alors, je me tourne vers le conducteur de notre bateau qui est aussi producteur de lotus.
Murai.
Il s'appelle Ray. Ray, tu travailles le lotus depuis longtemps ?
Je suis né ici et j'ai toujours vécu ici depuis 31 ans. Avec ma famille, on a commencé à cultiver le lotus en 1991. On était allé chercher la meilleure variété dans la province de Kampong Chinan pour l'implanter ici.
Et ici, ensuite, quels sont les usages du lotus ?
Dans la région, on cultive le lotus pour ses fruits. Les gens d'ici produisent des graines de lotus vertes et des graines mûres. Les mois où il n'y a pas de graines, on peut aussi vendre les fleurs de lotus pour les offrandes.
Traditionnellement, en fait, depuis le début, ils cultivent le lotus principalement pour les graines. Donc, soit les graines fraîches qui sont mangées comme ça, on appelle les cacahuètes locales. Et puis, éventuellement, les graines séchées. Donc, ça, c'est quand il y a des grandes quantités de lotus. Ils font des gros stocks de graines séchées qu'ils envoient ensuite en container qu'ils vendent en Chine. Ils vendent également les fleurs, telle quelle pour les offrandes à Bouddha. Et puis, depuis que nous sommes là, il commence à utiliser les tiges pour faire du fil.
Comment on plante et on replante le lotus dans un lac ?
D'abord, il faut plonger en apnée pour prélever le plant en entier avec la racine, puis on les replante dans des zones vierges. Ce sont des plants comme ce que vous voyez là, et après on les plante dans la boue à l'aide d'un bambou.
Et le lotus, ça rapporte combien ? Est-ce que ça permet de vivre correctement ?
Ici, en ce moment, la vente des graines de lotus mûres rapporte beaucoup d'argent. Avec les 3 hectares de terrain que je loue, cette saison, j'ai gagné 1 300 $. Cet argent me permet de vivre, de manger, mais je ne gagne pas encore assez pour faire des économies. Quand la saison des graines mûres se termine, je vends les tiges et ça me rapporte aussi pas mal d'argent.
Pour comparer par exemple à un paysan qui travaille le riz, c'est quand même un revenu plus intéressant.
Dans ce lac, avec les lotus, on gagne 2 fois plus qu'en produisant du riz. Sur 5 hectares, on gagne 3 000 $ avec les graines, contre 1 500 $ pour du riz.
C'est bon, Chinyangna ? Ok, je vais goûter une graine de lotus. Donc c'est pas mal. C'est un goût assez léger. Mais c'est frais, c'est pas mal.
C'est Didier Rossin qui a signé la réalisation du reportage aujourd'hui. Échappée musicale dans des tours avec le Cambodian Space Project. Autant dire qu'on reste au Cambodge.
Mettant la langue, bas rompaille, patte.
bắt ai cần giang nà tì mũi vi bắt cứ rơi sna ha tì pi cru sa mô ha thông chai chi pi pro cham cho vi man a so karna daru khnyom pho ti pi kru sa o nea kra krai kmien ti pang avai krau pi rup o
Eleanor Soc, alors maintenant que la culture du lotus n'a plus de secret pour nous, ou presque, on va s'intéresser au processus de fabrication du fil de lotus. Et pour ça, Awen de Laval nous ouvre les portes de son atelier. Il se trouve où cet atelier ?
Son atelier se trouve à 8 km du centre de Siem Reap, la ville des temples d'Angkor, sur la route qui mène au Tonle Sap, c'est le plus grand lac du Cambodge. L'atelier se situe dans une maison en bois, au bord de champs de lotus, et les employés travaillent sur la terrasse, donc une terrasse ouverte sur la nature.
Et cet atelier emploie beaucoup de monde.
À la Lotus Farm, il y a une douzaine d'employés, ce ne sont que des femmes. C'est un atelier traditionnel tout en bois, les femmes sont assises par terre sur des nattes et travaillent la fibre sur des petites tables. Il y a aussi un magasin en ville avec des couturières et des vendeuses et quelques employés sur le site de Camping Poi, là où nous sommes rendus au début, donc en tout une vingtaine d'employés.
Et quel genre d'habits crée Awen de Laval avec cette fibre de lotus ?
Alors, il fabrique des foulards, des vestes, des robes, des pantalons, même des robes de mariée. Mais ces derniers temps, Awen s'est davantage tourné vers la production de tissus.
Et les habits, on peut les trouver en Europe, en Suisse, en France par exemple ?
On trouve les créations d'Awen plutôt sur place au Cambodge. Par contre, pour le tissu, désormais 95% est exporté vers l'étranger, principalement Hong Kong, aux États-Unis, mais il en exporte aussi un peu vers la France et la Suisse, où il est ensuite travaillé par de grands créateurs de mode, comme Stella McCartney, par exemple, aux États-Unis.
Et puis, vous pouvez nous donner une idée du prix d'un habit en Lotus ?
Alors, il va falloir un peu casser vos économies, parce qu'un foulard en Lotus, c'est $300, donc à peu près 300 francs suisses. Et une veste, ça peut coûter 10 fois plus. Pour une veste, il faut 320 kg de fibres pour 4 mètres de tissu. Et le tout représente 2 mois de travail pour une fileuse. Donc, en visitant cet atelier, on comprend un peu mieux la notion de luxe. Tout est extrêmement très long et très fastidieux à produire, donc c'est ça qui explique le prix.
Donc, les tiges, elles doivent être travaillées dans les 24 heures. Donc, on ne stocke pas les tiges très longtemps.
Pourquoi ? Parce qu'après 24 heures, qu'est-ce qui se passe ?
Alors parce qu'au bout de 24 heures, la tige va se ramollir, elle va être plus difficile à travailler, et puis surtout le fil va se dégénérer, la qualité sera moins intéressante, principalement parce qu'elle va sécher.
Qu'est-ce qu'elles font les deux dames là qui sont assises près des bassins ?
Alors ça c'est la deuxième étape. Les tiges, elles arrivent, elles sont relativement sales et surtout elles ont plein de petits piquants sur le long de la tige. Donc cette étape consiste à enlever tous les petits piquants et à nettoyer la tige pour travailler avec une matière propre.
Ensuite, ça se passe de ce côté. Alors là, bah, c'est le cœur de l'opération, on va dire.
Donc voilà, une fois qu'on a des tiges propres, elles sont dispatchées juste à côté de chaque fileuse. Alors on travaille bien avec une plante aquatique, donc les tiges sont encore très humides hein, quand elles arrivent là. Elles vont être travaillées tout de suite sur une petite planchette de 1,20 m qui est en bois et qui sera toujours humidifiée régulièrement par la fileuse pour rester en milieu aquatique. Donc à l'intérieur de cette tige, quand on la casse, ce qu'on se rend compte, c'est qu'on a une quarantaine de fibres.
Ouais, c'est impressionnant. Hein.
Qui sont en fait des microfibres.
C'est de la taille pratiquement de toile d'araignée, en fait.
Voilà, c'est encore plus petit que la toile d'araignée. Chaque fibre est 20 fois plus fine qu'un cheveu. Ça fait à peu près 1 micron. Donc c'est pour ça que c'est une microfibre. Et contrairement à toutes les microfibres qu'on connaît aujourd'hui, la fibre de lotus est la première microfibre naturelle connue au monde. Donc son poids, ça va être moins d'un gramme par kilomètre.
C'est assez impressionnant parce que quand on voit la fibre, elle a l'air extrêmement fragile et pourtant, ça produit un fil qui est quand même assez résistant.
Alors tout à fait, c'est toutes les propriétés des microfibres en fait. Hein, la microfibre, que ce soit en termes de résistance, mais de respiration et autres. Et le fait que ce soit un fil qui soit extrêmement fin et qu'on va superposer une cinquantaine de fibres multipliées par le nombre de tiges. Donc généralement, on va imbriquer une dizaine de tiges. Donc on va avoir à peu près 500 fibres qui seront juxtaposées pour faire un seul fil. C'est ce qui explique le fait de la résistance de ce fil-là. C'est la juxtaposition de toutes ces couches qui va lui procurer une résistance énorme.
Combien de mètres de fil tu peux produire par jour ?
Alors une fileuse expérimentée comme celles qui sont toutes ici, hein, puisqu'elles travaillent toutes dans cet atelier depuis 3 ans maintenant, elles produisent en moyenne 250 mètres de fil par jour.
Ah oui, quand même. Que la fileuse, elle prend la tige dans sa main, elle fait des petites entailles et elle la casse. Et ça, c'est un geste qui a l'air pas facile à faire. Et ensuite, la fibre s'ouvre, elle la pose sur la tablette et elle la roule. Et c'est en la roulant sur elle-même qu'elle produit un fil. Savonne, ce geste, il est extrêmement précis à faire. Est-ce que c'est difficile ?
Quand on regarde, ça a l'air facile. Mais nous, les tisseuses, on sait combien il faut être précis. Mais depuis le temps, ça va mieux. Après 2 ans de pratique, c'est beaucoup plus facile.
Tu as appris ce métier ici ?
Oui, j'ai appris à la Lotus Farm en travaillant ici.
Qu'est-ce que tu faisais avant comme métier ?
Avant, j'étais dans les arts, j'enseignais la danse à des enfants dans une communauté catholique. J'ai dû arrêter et j'ai commencé à travailler le Lotus, à la Lotus Farm.
Ça représente quoi le lotus au Cambodge ? Qu'est-ce qu'on peut faire avec le lotus au Cambodge ?
Le lotus au Cambodge ? On peut tout utiliser dans le lotus. On peut consommer la tige, la manger fraîche ou mûre, les feuilles aussi, les graines. Avec les fleurs, on peut faire des offrandes religieuses. On s'en sert aussi pour embellir la maison et les hôtels en achètent pour faire la décoration. Le lotus, c'est une fleur importante pour les Cambodgiens. On aime bien tous les produits à base de lotus. On aime la fleur, la contempler, c'est beau. Par exemple, le matin, sur mon chemin, quand je vois dans les champs les fleurs s'ouvrir, je trouve ça très beau.
Mais alors, comment tu as découvert qu'il y avait des fibres dans le lotus ? Parce que ça, c'est quelque chose qui n'est pas très connu.
On a travaillé et surtout, on s'est inspiré de ce qui se fait en Birmanie, puisqu'en Birmanie, c'est le seul pays qui a conservé la tradition de la fabrication du fil de lotus. Pendant des décennies, ils ont réalisé une robe pour le moine le plus vénéré, et ce qui a permis de conserver cette technique. Le tissu qu'ils obtenaient est resté encore très artisanal et difficile à commercialiser. Donc du coup, nous avons dû développer nos propres techniques pour en faire un tissu unique et qui correspond au marché du luxe.
Et parce que c'était pas pour n'importe qui le tissu en lotus
Tout à fait, ça a toujours été un produit très exclusif et très rare.
Au Cambodge, tu es le seul à faire ça ?
Oui, on est les seuls à travailler la fibre de lotus au Cambodge et puis et les seuls à part les Birmans au monde.
On s'approche de la fileuse. Bonjour. Alors, la fileuse, elle est sur un grand métier à tisser qui doit faire 2 mètres de long, tout en bois. Bon, en fait, c'est vraiment le principe du métier à tisser traditionnel. C'est-à-dire qu'elle active le système avec ses pieds et elle passe une navette en bois entre les 2 rangées de fils qui sont tendus pour produire le tissu, pour assembler les fils, pour faire le tissu. C'est assez impressionnant, hein. Il est comment le tissu en lotus ?
Alors, le tissu en lotus, à première vue, il peut paraître d'une texture qui va ressembler un petit peu entre la soie et le lin. Avec le grand avantage, c'est qu'il est beaucoup plus respirant que la soie et qu'il est très peu froissable, contrairement au lin. C'est le principal inconvénient du lin.
Le Cambodge, c'est un des plus gros producteurs de textiles dans le monde, puisque la main-d'œuvre ici n'est pas chère et... On produit pour les grandes marques, H&M, Gap. Et à côté de ça, il y a ce petit atelier ici à Siem Reap, petit atelier en bois, qui produit ce tissu exceptionnel. C'est assez marrant comme contraste, non ?
Oui, alors en fait, c'est même plus étonnant que ça, parce qu'en fait, au Cambodge, on produit énormément d'habits, de chaussures et de produits finis, mais on produit pas du tout de tissu. On est les seuls à produire un tissu autre que la soie au Cambodge. Donc aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'on importe tous les tissus de l'extérieur, on fabrique et ensuite on réexporte tous les produits finis à l'étranger. Donc oui, effectivement, il y a un vrai besoin de développer des tissus au Cambodge. Cela va passer par des investissements, hein, parce que s'il n'y a pas d'industrie du textile aujourd'hui, c'est que les investissements n'ont pas été faits. Nous, on a préféré développer un petit projet qui va toucher une clientèle plus ciblée, celle du luxe.
Oui, quand on voit le temps qu'il faut pour produire ce tissu, on comprend un peu plus ce que ça représente, le luxe, quoi, en fait.
Voilà, tout à fait. Et l'autre choix aussi primordial, c'est qu'on a souhaité participer au respect de ce pays qui est magnifique et de son environnement, et travailler sur des process qui sont tous totalement écologiques. Le tissu de lotus est probablement le tissu le plus écologique au monde, pour la bonne et simple raison que pendant tout le procédé, comme vous avez pu voir, on n'utilise aucune source d'énergie polluante. Il n'y a pas d'électricité, pas de gaz. Et surtout, aucun produit chimique pendant tout le process. Donc pour nous, ce n'est pas juste une fibre d'exception, mais c'est aussi une fibre extrêmement durable. Et on espère qu'on va pouvoir habiller de plus en plus de personnes avec cette fibre qui est à la fois très confortable, mais aussi très respectueuse du corps et de l'environnement.
Eleonore Sock, quand Awen de Laval dit qu'il n'utilise aucun produit chimique pour fabriquer son textile, est-ce que ça veut dire qu'il n'utilise pas non plus de teinture, par exemple ?
Il n'en utilise pas beaucoup, car en général, les clients préfèrent le ton naturel de la fibre de lotus, qui est un ton beige. Mais quand il a besoin de teindre les tissus, il utilise des colorants naturels ou des teintures certifiées écologiques.
Et à quoi ressemble ce tissu au toucher ?
Les échantillons que j'ai vus étaient assez doux et fins. Par contre, une fois monté en vêtements, j'ai trouvé que le tissu était plus épais, un peu raide. Mais c'est un tissu qui est quand même assez respirant.
Encore une dernière chose, Eleonore Sock. Vous évoquiez certaines marques occidentales qui délocalisent et font fabriquer leurs habits au Cambodge. Donc ces entreprises sont régulièrement montrées du doigt pour non-respect des droits des travailleurs, que ce soit au niveau du salaire ou des conditions de travail. Qu'en est-il à la Lotus Farm ?
À la Lotus Farm, les employés travaillent en horaire classique, c'est-à-dire 6 jours par semaine de 9h à 17h, et elles sont un peu mieux payées que la moyenne, puisqu'elles touchent environ de 150 à 200 dollars par mois. Alors pour comparer, le salaire minimum des ouvriers du textile qui font beaucoup plus d'heures par mois, c'est 153 dollars. Et pour les employés qui travaillent dans des hôtels ou dans des restaurants, ça démarre à 80 dollars. Donc on peut dire que les conditions de travail sont plus détendues et quand même meilleures à la Lotus Farm.
Merci beaucoup Eleonore Sock pour votre reportage et puis tous ces compléments d'informations. À bientôt.
Je vous remercie, à bientôt.
Détour sur la première.
Du haut de la montagne, le cours d'eau est un fil d'Ariane. Il les arde les champs et emporte les âmes en avant. Quand approche les lumières de la ville, il sait se tenir tranquille. Thank you. dans mon lit, je laverai tes soucis à l'envi. Si tu pleures dans mon corps, tu nourris mon effort, oh mon courant. Quand t'approches la lumière de la vie, je sais.
C'est tout doux, c'est tout frais, ça s'appelle La Rivière et c'est chanté par le groupe O. Demain, dans des tours, nous resterons au Cambodge. Je recevrai Olivia Guérig. Cette jeune auteure genevoise a publié en début d'année Impasse Khmer, un roman dans lequel elle évoque les années de plomb vécues par le Cambodge sous le règne de Pol Pot et des Khmers rouges. Un passé qui hante toujours les Cambodgiens et qui reste d'actualité. Hier, le tribunal international au Cambodge a confirmé la condamnation à perpétuité des deux hauts plus dirigeants Khmers rouges toujours vivants.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. ងនិយាយថាចាប់ចិនចេតនាបើសិនជាអាចបានកំដរជាមួយនឹងអូនយំនេះណាថ្លៃជាយំដំបងមានថានាងកេងស្រមៃរឿងរាល់រាត្រីចង់បានបងជាគូសង្សារអូននឹងបានសុំរឹកដូចក្តីប្រាថ្នាជុំបរោះដូចជាបងនេះធម្មតាចំពោះរੂបងវិញគ្មានបញ្ហា
du rap cambodgien pour se dire au revoir. C'était Khmer One Jivit. Merci à Yves Roulin à la technique et à Caroline Deladoé, à Karine Deladoé, notre assistante de production, à Didier Rossa pour la réalisation du reportage et puis à François Piton pour le choix des musiques. Après les infos, vous retrouverez Lucas Torrent, ce sera Pantagruel. Belle suite de journée, il est 16h sur la première.